Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip. Je suis Alexandre Popiolek, doctorant en psychologie sociale sur le sujet de l'impact de la relation de confiance dans la santé et fondateur d'Empathia, mon entreprise de recherche, conseil et formation. Dans ce podcast, j'explique comment je réalise et finance ma thèse, construis mon activité et avance sur mon développement personnel. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter les épisodes 0 des précédentes saisons et nous allons maintenant pouvoir commencer. Premier épisode de cette saison 4 de Bip Bip, après l'épisode 00, qui a plu à certains, j'ai eu quelques retours, je vous en remercie. Ça va être un peu plus court, donc ça y est, là on est en fin de retour dans ce que j'espère être le nouveau rendez-vous hebdomadaire du podcast, dans lequel on va parler plus simplement de mes activités de la semaine et où je vais moins parler sur un plan général que ce que vous avez vu dans le premier épisode du coup de la saison 4. En tout cas, j'en suis très fier a posteriori, je l'ai réécouté, je suis très content de ce que je vous ai transmis. Je pourrais pas vous transmettre autant de choses par semaine, mais ça me relance vraiment dans la dynamique d'être de nouveau là toutes les semaines et de continuer cette aventure tout simplement en vous expliquant comment j'avance, parce que il y a un petit peu un principe qui s'applique depuis cet épisode, c'est que on m'a dit justement que ça renvoyait l'idée de on ne sait pas si j'ai l'impression que c'est une fin ou que c'est un début. Et c'est cette idée qui m'a un petit peu traversé cette semaine. C'est très bizarre, en fait, d'arriver au point où un an quasiment pile, je peux dire, j'ai rentré des sous, je suis parti de zéro, et là, le business commence à se lancer. Le sentiment est partagé. J'arrive pas à être totalement fier, content. Fier, oui, content, non. J'ai l'impression que... c'est juste le début, en fait. Et il y a un espèce de vertige assez bizarre qui est marqué par le fait que j'ai fait l'épisode où j'explique tout ce qui s'est passé. Et maintenant, c'est bon, j'ai regardé derrière depuis un an. Et en regardant devant, j'ai l'impression qu'il faut faire la même chose. Et qu'il faut faire la même chose 100 fois. Je viens de le faire qu'une fois. Et en fait, c'est juste le début. Il faut juste recommencer. Et assez difficile, j'avoue, de se remettre en jambes. C'était une semaine plein d'introspection et plein de difficultés psychologiques de se remettre dans le projet de thèse, parce que j'ai fait une pause sur mon projet de thèse pendant 4 mois, et j'avoue que de passer totalement dans l'univers entrepreneurial puis de revenir sur la thèse, ça fait bizarre, parce qu'on réapprend le rythme de la thèse qui est très différent. Je vais essayer de vous expliquer. Je pense que c'est le sujet que j'ai envie de défendre aujourd'hui. Pas forcément de plan, parce que je suis en semaine de thèse, donc j'ai décidé de passer en fonctionnement d'alternance, d'avoir des semaines thèse et des semaines entreprise pour cette nouvelle année. Et je sais sincèrement pas si c'est la bonne option, parce que les moments de thèse se prêtent pas tout le temps à... En fait, des fois, dans la thèse, on a besoin d'avoir plusieurs semaines, plusieurs jours à fond. Et parfois, on attend la validation d'un truc et du coup, on n'a rien à faire dans l'après-midi. Ou alors, c'est assez bizarre de se trouver quelque chose à faire. Ce que je trouve bizarre dans la thèse, en tout cas, comment je le vis, mais j'ai l'impression que je suis pas le seul, c'est qu'il y a des fois où... On aimerait avoir un projet carré dans lequel on sait qu'il faut faire les choses A, B, C, D. Mais des fois, on attend d'avoir pour l'étape C. On attend une vérification, on attend quelque chose, on attend une validation d'un directeur, de je sais pas quoi. On se laisse le temps de réflexion. Et donc, on est dans un moment où il faut se donner du travail qui sera peut-être utile plus tard, mais on ne sait pas vraiment. Et c'est en ça que je trouve que c'est très difficile d'être motivé dans la thèse. Par exemple, pour donner un exemple concret, imaginons que je veuille publier un article. C'est un exemple très concret. Je pense que je vais même expliquer les difficultés de publier et surtout de choisir un journal aujourd'hui. Je veux publier un article. Je suis en train de chercher un journal pour publier mon article. Et je demande à mes directrices de thèse ce qu'elles en pensent et j'attends leur mail de réponse. Imaginons que mon seul dossier dans la thèse, ce soit de publier cet article. Qu'est-ce que je fais en attendant la réponse? Est-ce que je me dis je prends mon après-midi? Ou est-ce que je fais ce que beaucoup font, parce qu'on n'a pas envie de prendre notre après-midi à chaque fois, je vais lire des articles un peu à côté. Mais en fait, c'est très difficile de se dire, pour m'occuper, je vais lire des articles sur mon sujet de thèse, sans vraiment de but, sans vraiment avoir un plan précis de pourquoi je lis tel article, etc. Mais il y a vraiment des fois, dans la thèse où on ressent le besoin de s'occuper, où on essaie de le faire de manière productive, mais où on n'a pas de plan vraiment précis. Donc, c'est peut-être aussi parce que je viens de reprendre mon sujet de thèse et mes dossiers que je suis un petit peu perdu. Donc, j'avoue que cette semaine, j'étais un petit peu perdu, un petit peu face à un grand vide. J'ai essayé de penser à plein d'images différentes cette semaine pour essayer d'expliquer, mais c'est comme. Alors, j'ai une première image avec des bateaux et j'ai une autre image avec un grand vide parce que, en fait, il y a un sentiment de vertige de. Je viens de finir un cycle, donc pas du tout ma vie ni rien, mais je viens de finir un cycle qui est de baisser la tête, enfin d'aller pas bien, je vous l'ai dit. Bon, je vais pas revenir sur chaque épisode que j'allais pas bien, mais d'un moment de craquage, baisser la tête et commencer à avoir de l'argent. Ok, il y a un cycle qui s'est fait, quelque chose qui s'est passé où je vois comment je peux réussir à faire de l'argent dans mon activité. Et donc, la fin d'un cycle, c'est le début d'un nouveau. Et en fait, quand on rentre dans un nouveau cycle, eh ben, on se rend compte de tout le chemin qu'il y a à faire. Et ça fait un grand vide. Et c'est en ça que switcher de une fin de cycle entrepreneurial pour revenir dans un cycle de thèse, ça fait un gros sentiment de vertige où on se dit, bon, ok, je me reprends tous mes trucs en tête, je reprends tous les articles que je suis censé faire. Et ok, je suis en train de me remettre en tête toutes les difficultés, tous les trucs d'avant. Et il y a un peu un sentiment de retour vers le passé. Pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai fait une pause pendant plusieurs mois, donc c'est un réel retour au passé de reprendre des dossiers qui ont 4 mois. Mais d'autant plus dans la tête qu'a ma thèse actuellement, c'est que je travaille sur des articles depuis des années maintenant, et c'est très difficile de lire des choses qu'on a pensées, qu'on a fait depuis 3-4 ans maintenant, et que ce soit toujours pas publié. J'avoue que je traverse une période particulière où il y a un côté entrepreneurial où je peux être super content, où j'ai l'impression d'avoir avancé, où limite je dis ça y est, je commence à financer ma thèse, mais qui est pas vraiment, qui est pas réel, hein, parce que financer ma thèse, ça aurait été de vous dire j'ai rentré 100 000 euros et ça y est, j'ai 3 ans large, mais j'ai pas rentré 100 000 euros, j'ai rentré des bons mois, ce qui veut dire que il y a de grandes chances que ça continue, mais on ne sait pas si ça continue et c'est à moi de faire le travail. Et donc c'est compliqué de revenir à la thèse et de reprendre tous les dossiers de zéro et de se dire, putain, mais je pensais à ces idées, j'écrivais ces idées depuis 2-3 ans et j'ai hâte que ce soit publié. Donc, semaine thèse, semaine très compliquée, compliquée de se motiver parce que l'autre image, c'est que la thèse, c'est un énorme paquebot dans lequel, bah, quand on fait une manœuvre, ça met des semaines à bouger. Il faut demander à des chefs de cabine, à des chefs de structure, à chaque fois qu'on veut faire un mouvement. Ça va pas vite, mais c'est un gros projet qui avance et qui sur lequel, bah, on peut pas forcément remanier des choses. Par exemple, quand on veut publier un article, bah, on soumet l'article. Parfois, on attend 1, 2, 3, 4 mois pour avoir un retour. Puis, on travaille sur le retour. Puis, on se prend la tête. Puis, on comprend qu'il y a une statistique qu'on connaît pas bien. Il faut qu'on l'apprenne. Donc, on prend 3 semaines à apprendre une nouvelle statistique. Et en fait, c'est très long, c'est très fastidieux pour un retour qui est minime. Et je le savais, on le voit, mais en fait, quand on sort d'une période entrepreneurial où c'est tout l'inverse, tout est en mon contrôle, tout est vite, chaque décision est prise rapidement et a un impact direct sur les choses. Par exemple, j'ai un dossier à faire pour un projet de recherche, je décide de faire telle partie, j'ai besoin de demander à personne et boum, ok, j'écris une partie sur ce sujet. Et il y a un côté très stimulant dans l'entrepreneuriat du coup, surtout que j'arrive à faire de la recherche dans l'entrepreneuriat, donc j'arrive quand même à trouver cette stimulation intellectuelle qui m'intéresse dans la thèse. Mais je fais un peu la comparaison avec le paquebot qu'est la thèse contre un speedboat, un bateau super rapide qu'est l'entrepreneuriat dans lequel chacun de nos gestes sur le volant peut nous faire tomber. Certes, c'est rapide, il faut avoir les yeux sur la route, c'est plus brouillon hein, parce qu'on fait moins attention aux détails, par contre on fonce. Et j'avoue que l'alternance, ça a cette complexité de savoir naviguer entre un gros projet où je touche 2-3 boutons, puis je profite du paysage, puis je navigue tranquillement. Et l'autre où il faut aller vite, il faut aller bien, il faut être très concentré. Et c'est deux muscles qui sont très différents. Et je ne sais pas du coup si l'alternance est la meilleure manière de faire une thèse et de la financer avec de l'entrepreneuriat, parce que, en tout cas, C'est la première fois là que je reprends ma thèse et ouais, c'est vraiment pas le même état d'esprit. Je me rends compte qu'une thèse, c'est très particulier. Je m'en veux moins et j'en veux moins même aux doctorants de voir qu'ils sont peut-être moins rapides, ils sont moins efficaces que ce qu'on pourrait attendre d'eux dans un système d'entrepreneuriat. Parce qu'il y a quand même un contexte général qui pousse à naviguer en paquebot et pas à naviguer en speedboat parce que bah il faut des validations, il faut qu'on réponde à des critères scientifiques pour faire des choses et puis il faut attendre, il faut mûrir un sujet, il faut mûrir des idées, il faut relire, il faut dormir sur des idées, revenir le lendemain, là où la pression de l'entrepreneuriat permet pas forcément ça. Donc grosse reconstruction, construction sur ma manière de voir ma thèse. Le fait d'avoir eu le nez dans l'entreprise, bah, j'ai exploré ma manière de voir l'entreprise, l'entrepreneuriat, comment je peux m'y retrouver. Mais maintenant, il va falloir que j'apprenne à comprendre comment vivre ma thèse, sachant que j'ai quelque chose d'hyper stimulant et potentiellement de très gratifiant qu'est l'entrepreneuriat à côté. Mais aussi l'effet d'interaction entre les deux, c'est-à-dire que financer sa thèse, c'est pas juste la financer et faire sa thèse, c'est comprendre comment on fait les deux en même temps. Et c'est pas juste 1 plus 1, c'est 1 plus 1 égale 3, c'est pas 1 plus 1 égale 2. C'est-à-dire que faire les deux, c'est aussi apprendre à avoir deux niveaux de vitesse, deux niveaux d'exigence. Parce que quelque chose qui est positif dans la thèse, c'est que c'est très exigeant. En tout cas, moi, dans mes besoins, je suis très content de pouvoir être exigeant, je suis très content de pouvoir prendre du temps de penser les choses et d'aller au bout de mes idées. Là où l'entrepreneuriat, bah, des fois, il y a des deadlines et on ne va pas au bout de nos idées et de notre besoin d'expertise. Donc, j'ai envie de continuer cette thèse et de la financer. Par contre, c'est vrai que c'est très difficile parce que je fais face à des sources de motivation qui sont très différentes. Et donc, j'ai vraiment l'impression que chaque projet a besoin de réveiller un bout de ma personnalité et qu'il faut que je switch pour m'y remettre. Tout ça pour dire que, par exemple, lundi, mardi, ça a été très compliqué de me mettre dedans. Mais c'est normal parce que je me reprends ma thèse 4 mois après. Et je voulais, je savais, je sais qu'il faut que je publie donc 3 articles. Mais j'ai eu du mal et en fait, je me suis senti bloqué par trop d'infos, trop d'imprécisions. Je ne sais pas où aller, je ne sais plus ce que je peux me permettre de faire tout seul ou s'il faut que j'attende des validations de directeur de thèse. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de perdu où avant, je me serais dit je suis nul, je ne sais pas motiver. Et en fait, maintenant que j'ai vu que j'étais capable de beaucoup travailler, et bah, là, j'ai passé un début de semaine sans beaucoup travailler parce que j'étais perdu, il fallait que je prenne des pauses, il fallait que j'aille marcher pour me dire mais qu'est-ce que je fais, où je vais, etc. Donc grosse période de reconstruction de la thèse qui va continuer. La semaine prochaine, je suis encore en période de thèse. Le but, ça va être, je vais voir une de mes directrices de thèse, les deux d'ailleurs, je vais voir les deux directrices de thèse la semaine prochaine. Et là, il va falloir être plus précis sur mon projet de thèse tel quel. Parce qu'une thèse, c'est pas juste écrire des articles, c'est développer une idée et essayer d'avoir une organisation d'articles, un plan pour développer cette idée et puis prouver des choses qu'on croit par rapport à un sujet, pour ne plus croire, mais en tout cas avoir des arguments assez forts pour y croire et donc faire des études pour prouver notre point. Et donc pour l'instant, moi, j'ai fait ma thèse plutôt comme un amoncellement d'articles que comme un projet d'une idée à défendre. Et là, il va falloir définir vraiment ma problématique, oui. Quand je le dis, ça donne l'impression que j'ai fait les choses dans le vent, mais pas du tout. Mais il va falloir être beaucoup plus précis, explicite et écrire quelque chose autour de ma problématique et un plan de thèse pour voir une finalité. Et donc, pour l'instant, le but, ça a été de reprendre ma thèse tout simplement. Et en fait, j'ai remarqué que reprendre ma thèse, c'était bah, parfois juste s'aérer l'esprit, reprendre les problématiques sans se flageller et se dire qu'une thèse, c'est un projet long et que je ne peux pas d'un coup, au bout de 4 mois et en reprise de vacances, être à fond et le lundi publier un article parce que non, en fait, il faut le relire. Il faut se redemander mince. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Qu'est-ce que je voulais défendre? J'ai testé dans quel journal? C'était quoi que je m'étais dit pour avancer sur cet article? Voilà, c'est très dur de relancer la machine en fait sur des projets qui sont longs. Donc là, c'est parce que j'ai fait une pause de 4 mois. On verra si j'arrive à faire cette gestion en flux tendu, vraiment, reprendre l'activité, puis reprendre la thèse, puis reprendre l'activité. Sincèrement, là, du coup, j'ai des doutes. Je pense pas pour l'instant avoir d'autres meilleures solutions que de faire en alternance, parce que essayer de faire la thèse et le financement à côté, c'est un peu trop compliqué. Mais j'y vois déjà des limites. Il y a une autre limite de l'alternance, qui est que c'est très difficile de se mettre dans un univers thèse en oubliant l'univers autofinancement, tout simplement parce que bah, cette semaine, j'ai fait des rendez-vous, des points, des visios pour l'entrepreneuriat, parce que je ne peux pas dire à un client, je suis en semaine thèse, ils n'en ont rien à fiche, et puis j'ai des deadlines qui m'oblige à prendre des rendez-vous pendant mon point thèse. Ça, c'est pas très dérangeant parce que c'est comme un bol d'air. Et puis maintenant, déjà, j'ai compris que l'alternance thèse entrepreneuriat, ce sera pas 100% thèse et je m'interdis de penser à l'entrepreneuriat et 100% entrepreneuriat et je m'interdis de penser à la thèse. C'est plutôt du 80-20, c'est-à-dire en semaine thèse, je fais 80% de thèse, en semaine entrepreneuriat, je fais 80% d'entrepreneuriat, sans me prendre la tête sur les pourcentages, mais dans l'idée et dans l'esprit, ce serait comme ça. Et surtout, si quelqu'un là me demande dans 2 mois, est-ce que tu peux faire une formation cette semaine-là? Et bah, si ça tombe sur une semaine thèse, de m'autoriser à dire bah, j'aimerais que ce soit une autre semaine. Donc, c'est surtout ne pas prendre de prestations à proprement parler. Par contre, des points, oui, c'est des points que je fais sur les projets et puis des petites choses, des petites vérifications. Ça, je suis obligé de les faire quand même en point thèse. Je ne peux pas totalement faire une alternance. Donc, ça, c'est la première limite. Mais bon, maintenant que je l'ai comprise, bah, je vais un peu mieux l'appréhender et puis l'appliquer. La deuxième limite, c'est la deuxième et la troisième, c'est un peu lié, c'est que psychologiquement, c'est très dur de se dire je fais une semaine thèse et je relance pas de clients ni essaye d'avoir des prestations parce que c'est pas l'objet de la semaine thèse. Sauf que j'ai pas gagné au loto, j'ai pas gagné 100 000 euros. J'ai certes quelques mois de sursis, quelques mois d'avance, mais ne pas avoir non plus un appui de 6 mois, de 10 mois, et se dire je ralentis mon activité pour cette semaine, je travaille sur ma thèse, alors que potentiellement dans 6 mois c'est la galère et que certes j'ai gagné beaucoup d'argent ces 2 derniers mois, mais si tout s'arrête, bah je peux très vite ne pas avoir d'argent. C'est très dur de faire confiance au processus. La semaine dernière, je vous ai dit faire confiance au processus, et là, faut vraiment que je fasse confiance en ma capacité à faire de l'argent et à me dire, même si j'ai pas 1 an d'avance, 2 ans d'avance, j'ai quelques mois d'avance, et quand je serai en semaine entreprise, je vais réussir à trouver des nouvelles prestations. Et ça, c'est compliqué. On vit avec une peur de se dire, mais attends, mais pourquoi là je donne pas tout sur l'entreprise? C'est pas comme si j'avais 50 000 de côté. Ma réponse, c'est je fais confiance au processus, peut-être à tort, mais c'est difficile de lâcher prise sur l'entrepreneuriat, en fait. Je lâche pas prise parce que je fais de la gestion, mais j'essaye pas d'avoir de nouveaux clients, alors que ça peut être utile pour pérenniser l'activité. Donc voilà, avoir en tête le fait de se dire, bah, mon activité, elle tient pas la route non plus depuis 2 ans. Tout peut toujours se casser la gueule, mais moi, je me donne le luxe de ne pas travailler pendant 2 semaines à fond sur l'entrepreneuriat et de reprendre en alternance. C'est très dur. On doute et on se dit, mais ça se trouve, je fais ça et dans 2 mois, j'aurai pas de nouveaux clients et je m'en serais voulu de travailler sur ma thèse. En gros, la question, c'est est-ce que je peux me permettre de ralentir l'entrepreneuriat pour faire ma thèse, même si c'était le plan, et ben c'est dur psychologiquement de lâcher prise. Donc là, c'est plutôt la raison 2. La raison 3 qui est liée, c'est que donc psychologiquement, c'est dur de lâcher prise parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir refaire de l'argent. Mais d'autant plus que la thèse en elle-même, c'est un projet qui est très en flux tendu. C'est-à-dire que quand je me donne une semaine thèse, et bah ça se trouve, j'ai pas forcément 35 heures de travail de thèse à faire, et j'ai plutôt 15 heures, parce que là, fallait juste que j'envoie l'article, et maintenant, j'attends, je sais pas, le retour d'un autre auteur de l'article, qui doit me faire des commentaires. Et certes, je pourrais passer 20 heures à lire des articles, mais là, c'est pas urgent, et donc, il y a aussi quelque chose de ce que j'ai. Imaginons, je me suis donné une semaine de thèse. Dans cette semaine, le mardi, j'ai fini ce que je devais faire pour la thèse. J'ai deux choix qui s'offrent à moi. J'ai rempli mes objectifs de thèse, donc vu que j'ai encore du temps sur la thèse, je prends de l'avance et je lis des articles, etc. Mais c'est quasiment de l'exploratoire et c'est pas quelque chose qui est urgent. Ou alors, je mets fin à cette semaine thèse et je passe en mode entrepreneuriat pour avancer parce que là, par contre, il y a peut-être des trucs urgents. Et voilà, c'est cette gestion, mais je pense que c'est très normal finalement parce que c'est ma première semaine test d'alternance et j'aimerais affiner un peu tout ça en 2025, de me dire, bon, imaginons que j'ai du temps vis-à-vis de ma thèse par rapport à mes objectifs. Est-ce que je me force à continuer dans la thèse parce que il y a toujours quelque chose à faire dans la thèse, mais c'est pas urgent. Par contre, il y a toujours quelque chose à faire dans l'entrepreneuriat, et là c'est souvent urgent parce que, au pire, si j'ai répondu à tous mes clients, ce que j'ai à faire dans l'entrepreneuriat, c'est en chercher des nouveaux, et ce sera urgent tant que j'ai pas un an d'avance, tant que j'ai pas l'esprit tranquille pour me dire là je peux faire ma thèse, je sais qu'il y a de l'argent qui va venir. Donc là par exemple, ça m'est arrivé, imaginons que. Un jeudi 15h, j'ai fini ce que je m'étais dit que je voulais faire pour la thèse. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lis quelques articles par rapport à la thèse? Ou est-ce que je me dis, tiens, vas-y, je vais envoyer quelques mails pour l'entrepreneuriat pour trouver des nouveaux clients? Ça paraît peut-être nul de réfléchir à ça. Peut-être que vous avez une réponse qui est toute faite. Mais en tout cas, pour vous exprimer ce qui se passe dans ma tête, c'est que ça a une raison en fait de faire une alternance. La raison, c'est le stress. La gestion et la gestion de charge mentale, charge cognitive. Donc, ça m'aide pour le stress, pour la fatigue. Et du coup, dans une perspective d'être à la fois efficace, mais aussi prendre soin de moi, c'est très difficile de switcher et surtout de douter, de se dire, mince, qu'est-ce que je fais? Là, peut-être que je pourrais prendre de l'avance pour me lancer dans ce truc-là. Mais c'est difficile de switcher et de passer du projet de thèse au projet entrepreneurial, parce que cognitivement, c'est très lourd, c'est deux mondes qui sont quand même assez différents. Et donc, quand je passe en période de thèse, je mets mon cerveau en mode thèse, et du coup, il y a toutes mes tâches, tous les trucs que je dois avoir en thèse. Et quand je suis en mode entrepreneuriat, je mets mon cerveau en mode entrepreneuriat. Et donc, c'est assez fatigant de switcher. Donc, en disant ça, on dirait qu'il y a une solution qui veut dire, bah non, du coup, tiens-toi à tes semaines thèse et à tes semaines entrepreneuriat. Sauf que y a la crainte, donc la limite numéro 2, la crainte de se dire putain, mais je me suis occupé à lire des articles à moitié pour m'occuper en semaine thèse, et quand je vais revenir en semaine entrepreneuriat, je vais être en retard, ça va être serré. Voilà, donc je ne suis pas totalement sans solution, mais voici les limites que je vois semaine 1 de mon fonctionnement en alternance. Peut-être que je vais affiner, je vais trouver des règles qui sont que je m'autorise à avancer sur tel sujet de telle manière, ou que peut-être l'alternance va se faire dans une semaine, enfin au sein d'une même semaine, je veux dire, c'est-à-dire que je vais faire thèse lundi, mardi, mercredi et entrepreneuriat jeudi, vendredi, ou l'inverse, pour pouvoir dans tous les cas gérer des dossiers un peu tout le temps. Je ne sais pas. Je vais me laisser aller. Déjà, je vais en parler à mon psy et je vais me laisser aller à l'expérience tout simplement et à voir comment tout ça marche. En tout cas, assez difficile de se remettre dans le bain. Et ce que j'ai compris, c'est que on verra justement, ça va se vérifier. Mais je pense que faire des arrêts trop longs, c'est contre-productif parce que le temps de se remettre en tête, eh ben, c'est difficile de se motiver, de savoir où on va. Et en fait, quand on ne sait pas où on va, eh ben, on finit limite bloqué devant son PC, avoir plein d'idées, se dire, mais attends, mais qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Donc voilà, à voir sur cette organisation. Je vous tiendrai au courant. Ça fait justement plaisir de se ressentir dans une dynamique juste de suivi sans que je vous dise mes 24, mes 24 règles du développement personnel. On est de retour dans le quotidien d'un chercheur entrepreneur. Ce sont les questions que je me pose. J'espère vous en dire un peu plus les prochaines semaines. Voilà. Parmi les problématiques qui m'ont traversé cette semaine par rapport à la thèse, vu que je suis en période de thèse, ça a été de trouver un journal. Donc, j'ai remis la tête dans mes articles. Pour rappel, les trois articles qui sont en cours, deux de ces trois articles sont finis. Il y en a un qui est fini, fini, et l'autre qui est fini à 99%, 98%. Et le troisième, alors je pensais qu'il était un peu plus avancé, j'aurais dit 80, maintenant je dirais plutôt 70. Je vais d'abord parler des deux premiers articles, parce que je suis dans une phase de chercher un journal, et c'est un enfer, et donc vu que le but c'est transmettre mon quotidien. Je vais expliquer quelles sont les problématiques auxquelles je suis confronté pour trouver un journal scientifique. Alors, quand on cherche un journal scientifique, on est intéressé par son, entre autres, hein, par des statistiques qui prouvent à quel point il est lu. Pour se dire, bah, si je publie un article dans ce journal, j'ai des chances qu'il y ait beaucoup de gens qui le voient. Parce que bah, finalement, le monde scientifique est basé sur le fait qu'on veut faire un article qui serve à quelque chose et que donc il soit publié dans un journal scientifique qui ait de la popularité pour qu'il y ait d'autres auteurs qui le lisent. Le mieux, ce serait de se dire que pour le grand public le lise, mais bon, il faut être honnête, le grand public ne lit pas de littérature scientifique. Donc au moins de se dire, je suis dans un journal connu, par exemple Le Monde. Donc là, c'est pas vraiment Le Monde, mais imaginons que on soit dans le monde du journalisme. Et bah évidemment, je préfère publier un article dans Le Monde que dans Pêche, Chasse et Tradition, parce que on a tout simplement envie que ce soit un peu plus lu. Donc premier critère pour trouver un journal scientifique, on veut un journal qui est assez bien. Assez bien, c'est certains indices qui disent que bon, bah, pour un article publié est en moyenne lu X fois. Donc déjà, on va regarder ces statistiques de lecture. Ensuite, on va regarder bah, si cet article publie, enfin ce journal, pardon, publie des articles qui sont à peu près dans notre discipline, et même au-delà des disciplines, est-ce que le journal publie sur des sujets, des types de sujets qui ressemblent à mon article? Par exemple, donc déjà par discipline, vous imaginez bien que moi je suis en psychologie sociale. Si j'écris un article, enfin si je soumets un article de psychologie sociale dans un journal d'agronomie, eh bien ils vont dire non, votre article n'a rien à voir. Donc là, dans le monde du journalisme, eh ben justement, si je fais un truc sur la pêche, le monde a grande chance de s'en foutre, même si c'est généraliste, mais il faudrait que j'ai un truc, un peu une idée à défendre, un peu fondamentale ou généraliste pour que le monde me publie. Et sinon, Chasse et Pêche de l'Oise, ils seront très contents de publier mon article. Donc il faut trouver un article plutôt connu, mais pas trop. Et je vais expliquer pourquoi. Et il faut trouver un article qui est à peu près dans le sujet de notre. Un journal qui est à peu près dans le sujet de notre article. Bon, je vais essayer d'arrêter de me tromper parce que sinon ça va prêter à confusion. Alors, le journal, s'il est trop connu, les temps de réponse pour que notre article soit validé sont souvent plus longs. Il y a de grandes chances que ce soit plus cher. Et il y a de grandes chances pour que les reviewers, donc les personnes qui relisent notre article, pour juger de sa qualité, soit plus difficile. Sauf que du coup, si ça arrive à passer, bon, on finit par payer plus cher, mais on est mieux reconnu dans le monde scientifique. Par contre, si on a un journal qui est beaucoup trop faible dans ses indices de lecture, eh bah, tout simplement, ça veut dire que on a une faible renommée et que voilà, c'est pas un article, ça perd un petit peu en crédibilité dans le monde scientifique. En tout cas, du point de vue des institutionnels et du point de vue de si on veut faire carrière, parce que il y a différentes lectures. Si je veux être chercheur au CNRS, le CNRS va regarder, ok, il a publié dans des gros journaux qui sont connus et qui ont des bons indices. Par contre, entre chercheurs, je pense qu'on sait un peu plus faire la différence. Et moi, si je lis un article sur la confiance, c'est pas le journal dans lequel il a été publié que je vais regarder, mais c'est vraiment la qualité. Donc, un expert saura trouver un article s'il est bon, même s'il est dans un journal qui est pas connu. Par contre, quand on veut monter les échelons, sa carrière, eh ben on cherche un journal un peu connu. Donc la stratégie, en tout cas pour moi, qui n'ai pas beaucoup d'argent et qui n'ai pas beaucoup de temps, c'est de pas aller taper dans les meilleures revues parce que de toute façon personne n'arrive à publier, il y a 1% de chance et ils vont mettre 6 mois à me répondre, et pas de taper dans les pires pour pas qu'on puisse dire oui, bon, ok, t'es allé dans une sombre revue indonésienne qui t'a dit oui tout de suite, voilà, ça va décrédibiliser ma recherche. Donc voilà, il faut déjà jouer sur l'importance du journal. Ensuite, il faut jouer sur bah, est-ce que le journal porte un petit peu sur nos sujets, ce qui, moi, est une limite importante. Hein. Moi, je travaille sur la confiance, qui est déjà un sujet en psychosocial qui est peu connu. Donc, il y a potentiellement plein de journaux qui vont se dire, ouais, non, on ne connaît pas trop, on va pas publier dessus. Et en plus, je fais des stats qui sont peu connues. Donc, ça fait un critère déjà qui est difficile de trouver un journal qui se dit, ouais, ça fait partie des sujets qu'on aime bien traiter, donc ok, on va prendre la peine de relire votre article. Ensuite, moi, dans mon cas, il faut que je regarde si le journal est, enfin, si c'est payant de soumettre son article et de publier dans le journal, et à quel point c'est payant. Si, du coup, je peux me faire rembourser par la fac ou la fac peut payer à ma place parce qu'il y a des bourses, des trucs qui sont mis en place. Sauf que la fac a certains critères pour publier dans le journal, donc je ne peux pas publier dans n'importe quel journal. Et sinon, il y a des. Donc, sinon, je décide de moi payer, mais ça peut aller jusqu'à 3 000 euros par article. Donc là, voilà, vous pouvez reprendre l'épisode d'avant où je vous dis yes, je suis riche, j'ai rentré beaucoup d'argent. Bah non, si j'ai 3 articles à envoyer et que c'est 3 000 euros, bah c'est 10 000 euros et voilà, c'est quasiment ce que j'ai rentré en net les 2 derniers mois. Donc voilà, ma richesse et mon auto-entreprise qui soi-disant explose peut passer dans des journaux que je paye pour qu'ils puissent ensuite simplement publier mon article et que j'ai évidemment pas de royalties selon le nombre de fois où le journal est vendu ou même le nombre de fois où l'article est publié parce que plus les journaux sont connus, moins on a de droits. Donc en fait, je paye un journal qui prend mes droits et qui détient les droits de mon article et qui ensuite fait ce qu'il veut. Normalement, pour acheter les droits, imaginons que c'était une musique, pour la vendre, enfin, pour la donner à quelqu'un et qu'il ait tous les droits dessus, c'est moi qui aurais dû avoir de l'argent. Mais voilà, dans le monde de la recherche, c'est moi qui paye quelqu'un pour lui céder mes droits et qu'il ait totale exploitation de mon article scientifique. Mais bon, évidemment, ce qu'on veut, c'est de la renommée et je devrais être honoré que mon article scientifique soit publié dans un journal scientifique pour aider la science, etc. Ça m'aurait fait plaisir si bah, il n'y aurait pas juste des multinationales américaines qui finiraient par recevoir l'argent. Bref. Donc, je dois faire en sorte de trouver quelque chose de pas très cher parce que si c'est moi qui paye, et si c'est quelqu'un d'autre qui paye donc par la fac, il faut que je réponde à d'autres critères. Qui veulent pas, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a encore des critères, certains types de journaux sont remboursables par la fac, d'autres non. Ensuite, ça peut être, si c'est pas payé par la fac, ça peut être gratuit parce que il y a donc par rapport à ce que j'ai défendu, le fait que en fait on finisse par donner de l'argent à des multinationales qui nous prennent nos articles, nos droits et qui parfois les revendent derrière. Il y a des choses qui sont faites, il y a des gens qui se sont réunis et qui se sont réunis en consortium, donc qui s'appelle le consortium Couperin, COUPERIN. Donc c'est marrant parce que je parlais de ça quasiment l'année dernière aussi, donc finalement tout est une boucle. Et donc ce consortium a négocié avec des gros éditeurs, donc en fait les éditeurs c'est des grandes maisons d'édition qui gèrent des journaux. Donc l'éditeur là c'est Wiley, Wiley, qui gère plusieurs journaux. Donc imaginons, je suis un éditeur et j'ai, je sais pas, le journal de la confiance, le journal de la psychologie organisationnelle, le journal de la sociologie, le journal de la domotique. Voilà, c'est pas forcément en psychologie. Mais donc il peut y avoir plusieurs journaux qui sont détenus par un éditeur, qui sont très souvent des grandes multinationales. De base américaine. Bah, du coup, je me dis, est-ce que multinationale américaine, c'est quelque chose qui a du sens dans la phrase? Mais en tout cas, c'est pour dire, c'est des grandes organisations qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont implantées aux États-Unis. Et donc, ce consortium Couperin a négocié pour beaucoup de facs de France de pouvoir publier dans des journaux de manière gratuite. Ça, c'est très cool. Donc ça, c'est des gens qui ont l'air de partager un petit peu mes idées de... Bah, il y a quand même un truc qui ressemble vachement à une arnaque en France dans la recherche qui est qu'on doit payer pour que quelqu'un vende notre propre production. C'est quand même un petit peu bizarre comme fonctionnement. Et donc, ils ont l'air d'être un petit peu pas d'accord comme moi, sauf qu'ils se sont mis en organisation et qu'ils ont négocié avec un éditeur pour pouvoir publier gratuitement. Donc, moi, je fais face à une sélection de journal, soit qui viennent de l'éditeur Wiley, mais qui en plus ont un scope, des thématiques qui sont proches de ce que je fais, qui ont des statistiques de lecture pas trop fortes mais pas trop basses, et surtout, dernier critère, qui n'ont pas de limite de mots ou de limite de pages pour publier. Et ça, c'est le critère le plus compliqué, qui est que moi, mes deux articles qui sont finis à 98% font respectivement 44 et 47 pages. Et c'est entre 15 000 et 17 000 mots, tout compris avec les références, etc. Mais quand on compte les pages, on compte avec les références, en tout cas dans les journaux que j'ai vus jusque-là. Et donc, faut savoir que très souvent, les limites de pages, alors, je connais 5 000 mots, 8 000 mots, et quand on dit des pages, j'ai déjà vu 10, 15 et 40 ou 45. Donc, les miens, sachant qu'il y en a un qui vient de m'être refusé parce que, en fait, il n'avait pas la bonne mise en page, et en appliquant la bonne mise en page, là, le 44 pages, avec la bonne mise en page, ça fait plus de 45, ça se rapproche des 50. Donc, en gros, j'ai deux articles à 50 pages, avec 90% des journaux qui ont des limites de mots ou de pages qui sont bien en dessous de mes articles. Bon, bien en dessous quand ils sont à 5 ou 8 000. Quand la limite est à 40-45, c'est jouable. Mais il faut quand même se dire, les 40 pages, il faut se dire, vous connaissez ça, même pour ceux qui font pas de recherche, quand on fait un dossier, à la fin, se dire il faut enlever 5 pages de contenu, c'est compliqué. Surtout quand l'article a été lu, relu, refait, remanié, et que le fait de changer 5 pages impliquerait à tous les co-auteurs de le relire, de valider, ce qui peut faire perdre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et repartir dans une boucle infernale d'attente, de correction, de on discute. Donc, j'ai fait face à tout ça cette semaine, j'ai recompris ce qu'était la recherche, et je fais reface à ses limites. Et donc, j'ai deux articles à 50 pages. Pour lesquels c'est déjà très compliqué de trouver un journal qui n'a pas de limite de page, parce qu'il y en a qui disent justement pas de limite, parce que quand il y a une limite, c'est très souvent en dessous de 45, tout le temps de ce que j'ai vu, hein, en tout cas en psychologie sociale, dans le journal que j'ai vu, enfin de mon expérience, j'ai jamais vu, soit il n'y a pas de limite, soit les limites vont jusqu'à 40-45 pages. Et moi, les miens font plus de 45 pages. Alors maintenant, vous pourrez me dire, pourquoi tu as fait des articles de 45 pages? Alors déjà, parce que je les ai commencés avant de connaître tout ça. Et en plus, parce que on nous limite dans le contenu, mais on nous critique et on nous engage à chaque fois à faire de plus en plus de statistiques, à développer telle partie. Et moi, j'ai eu des commentaires sur mes précédentes versions. Et à chaque fois, c'était, ah bah là, vous évoquez une première étude et ensuite vous développez la deuxième, on aimerait bien qu'il y ait la deuxième. Et en fait, il y a une espèce d'injonction paradoxale dans le système où on nous pousse à faire toujours de plus en plus de statistiques, à développer de plus en plus de théories, mais à toujours avoir des limitations de mots et de références. Et donc, c'est très frustrant de se dire, moi, il faut que je fasse attention à trouver les conditions pour potentiellement ne pas payer le journal ou pas pour tous, parce que si j'ai tout simplement pas l'argent. Il faut que je trouve un des rares journaux où il n'y a pas de limite de mots. Il faut que ce soit dans les sujets qui intéressent le journal. Et puis, il faut que les reviewers se soient levés du bon pied ce matin, parce qu'en plus, eh ben, parfois, on est mal reçu et le reviewer a mal compris notre article. Et je dis ça parce que je me suis réouvert à la littérature sur la confiance, etc. J'ai relu quelques articles et il y a des articles qui ressemblent à un des trois que je suis en train d'écrire, qui est très proche de ce que je voulais faire, mais qui est, de mon point de vue, hein, et c'est souvent le point de vue des gens quand on est dans le sujet, mais qui est, de mon point de vue, pas top. Est bien moins bon que ce que moi j'aimerais faire, sauf que ça passe. Et donc, on est noyé dans plein de trucs comme ça paradoxaux, où moi j'ai un article qui fait 44 pages, et c'est pas la quantité qui compte. Mais surtout que cet article, il est loin de casser en deux la science sur la confiance. Mais je trouve qu'il est intéressant et méthodologiquement, il est entendable, statistiquement, il est entendable. Ça ne veut pas dire que je suis pas prêt à le modifier, mais je pense qu'il mérite d'être publié un jour, un moment dans un journal. Et donc, on nous le renvoie, on nous dit qu'il faut développer des choses, mais quand on se met à les développer, du coup, on a trop de mots pour qu'ils soient publiés. Et à côté, on voit passer des articles qui passent et qu'on trouve vraiment moins bons. Et bah, malheureusement, c'est un petit peu ça la thèse, et il faut faire avec tout ça. Donc, moi, je suis en phase de chercher des journaux qui n'ont pas de limite de mots, qui sont. Où j'estime qu'ils vont plutôt pouvoir m'accepter, donc qui sont pas trop connus, qui sont pas trop nuls, parce qu'il faut quand même que pour mes premiers articles, je montre que je suis capable de publier dans des bons journaux, et qui rentrent dans des critères pour que la fac me publie, ou pour qu'ils soient gratuits, parce qu'il y a ce consortium qui a négocié. Voilà. Donc moi, je voulais juste faire de la science au début. Je voulais juste écrire des trucs que je pense en essayant de les prouver statistiquement. Mais il faut jongler avec tout ça, avec de l'administrativo, stratégie politique. Et c'est frustrant parce que là, j'agis dans une marge de manœuvre qui est très serrée pour publier ces deux articles. Et puis, le troisième, ça ne va pas s'arranger parce que je pense qu'il va être un peu long aussi. Donc, on avance, mais c'était pour vous partager la manière. Enfin, les sujets du moment, c'est que soumettre, c'est facile, mais surtout le premier article, quand ça fait 6 mois, 6 fois qu'il a été soumis, eh ben, le nombre de journaux qui collent potentiellement à tous ces critères commence à diminuer. Donc on se dit, mince, est-ce que je vais vraiment réussir à publier? Et je pense qu'il y a, il y a une, il y a un point sur ce sujet, c'est que par rapport à mon état mental du moment, en se disant, je reprends des articles depuis que j'ai en tête, voire que j'ai sur mon PC depuis des années. Ça fait 4 mois que j'ai pas pris ma thèse. Je reprends et je veux juste publier mon article qui soit critiqué et que ça puisse enfin fonctionner. Mais je reprends tous ces critères, etc. Et en fait, il y a un truc de se dire, c'est infini. C'est sans fin. On a l'impression, enfin, j'ai l'impression en tout cas, que je vais jamais y arriver. Je suis pas extrêmement négatif dans mon état mental, mais en tout cas, ce qui me traverse, c'est de me dire, mais est-ce que je vais réussir à enfin publier un article? J'ai l'impression d'être dans cette dynamique de je suis refusé, je cherche un journal, je suis face aux mêmes critères, c'est compliqué de trouver un journal, je refais, je suis refusé. Ça fait vraiment un cycle sans fin, et je crois que c'est ça le vertige, c'est que je viens de mon point de vue, je viens de passer une épopée de me dire, ouais, c'est bon, entreprise, je me développe, je craque, je travaille, j'ai de l'argent. Et là, je reprends un projet avec encore plein de problèmes qui a l'air d'être une boucle sans fin, et je me dis, mais j'ai rien fait du coup. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais s'arrêter, ça veut dire quoi? Enfin, voilà. Beaucoup de questions qui se posent, et voilà un peu plus précisément le genre de problématique qui peut jouer sur la motivation de se dire, mon article est prêt depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, et j'arrive pas à le sortir. Et à chaque fois, je fais face à plein de critères et d'injonctions paradoxales du système en soi. Hein, c'est pas une personne qui est paradoxale, c'est toutes les attentes du système qui parfois collent pas. Et on est baigné dans ça, et on se dit, bah, est-ce que je vais réussir à publier un putain d'article scientifique? Désolé pour la vulgarité, mais c'est un peu, ça donne la couleur de à quoi ça ressemble. C'est, j'ai des trucs à dire depuis des années. Est-ce que je vais réussir juste à le faire au moins une fois? Je pense que je ne serai pas un grand chercheur parce que j'ai l'impression que ça va vite me fatiguer tout ce petit jeu. Mais bon, je fais une thèse, il y a un moment, ce serait bien de publier un article. Surtout que bah, du coup, ça fait que j'ai au moins 2 articles à 50 pages. J'en ai un troisième qui devrait faire une quarantaine. J'ai quasiment 150 pages d'écrit sur la confiance. J'ai des trucs à dire quand même, même si c'est pas parfait, je veux bien en convenir. Laissez-moi les exprimer et en publier au moins un. Il y a quand même des chercheurs qui ont relu mes articles et personne m'a dit que c'était n'importe quoi. Et c'est des gens quand même bien placés, dont ma direction de thèse. Donc ça a le mérite au moins d'exister sur le plan scientifique, sans dire que c'est des articles qui vont renverser la science. J'aimerais que le système me laisse ma chance. Bref, ce n'est pas une plainte, c'est vraiment pour vous expliquer à quoi ça ressemble là de revenir dans ma thèse. Et donc, les semaines qui arrivent, je vais me pencher sur bah, quel journal pour publier quel article et comment faire en sorte que je ne paye pas le journal parce qu'il y a des dispositifs qui sont faits pour. Et si je peux m'éviter de payer 3 000 euros par article, ça peut être pas mal parce que, et bah, tout simplement, si je dois payer 3 000 euros par article. Je le ferai pas maintenant parce que ça viderait quasiment mes comptes. Ça va encore geler juste pour des problèmes financiers. Je dois jouer avec tous ces critères et avancer sur ces sujets. Ça, c'est pour les deux premiers articles. Et pour le troisième, c'est une scoping review. Je vous en avais déjà parlé, mais donc c'est une revue de littérature qualitative où on peut avoir l'opportunité d'être un peu plus light sur le nombre de personnes investies, sur les statistiques qui sont un peu plus qualitatives, un peu moins quantitatives. Et qui permettent de faire le point, de planifier, enfin tout plan, de mettre à plat la manière dont les mesures de la confiance entre deux personnes s'organisent dans la littérature. Lesquelles sont-elles, quels construits elles utilisent, comment elles mesurent la confiance, il y a combien de questions dans chaque questionnaire. Voilà, mon but c'était de faire le point sur si on veut mesurer la confiance entre deux personnes. Grâce à la littérature scientifique, comment on s'y prend, qu'est-ce que ça veut dire, et comment critiquer un peu la manière dont ces outils sont construits. J'ai commencé cette étude, je crois, en 2023. Je vais pas dire tout le temps les dates parce que ça me fait du mal, justement, de voir à quel point c'est long. J'ai mis du temps à écrire ce truc. J'ai commencé à faire des résultats. En 2024, j'ai dû faire une relance en mai 2024. J'ai dû faire une relance parce que du coup, quand on fait ce genre d'études, eh ben, on essaye d'avoir tout. On essaye vraiment d'avoir tous les articles sur ce thème-là. Mais donc, quand ça fait plus d'un an qu'on essaye d'écrire un article dessus, eh ben, il y a eu un an d'études et de recherches scientifiques qu'on a potentiellement raté. Donc, si on veut que notre étude soit à jour, eh ben, on relance la recherche en se disant est-ce qu'il y a de nouveaux articles qui correspondent à ceux sur lesquels je veux travailler? Donc ça, je l'ai fait en 2024. Et là, en passant en 2025, je me suis dit, bah, je suis quand même un peu obligé de faire une relance encore, de me dire est-ce que entre ma dernière recherche et aujourd'hui, il y a des nouveaux articles qui pourraient m'intéresser? Et donc, bah, la réponse, c'est potentiellement oui. Là, j'ai fait une relance de recherche d'articles scientifiques. Et donc, il y a potentiellement des nouveaux articles. Et encore une fois, je suis face à un article de 2022 pour lequel je vais devoir recommencer quasiment depuis le début. Bon, je sais ce que j'ai à dire et c'est quasiment parce que les résultats vont pas beaucoup changer. Mais toutes mes stats vont devoir être modifiées parce que, par exemple, j'avais trouvé 47 articles scientifiques qui développent le développement. Qui développe pardon un questionnaire sur la confiance entre deux personnes, et ben là je vais en avoir plus, donc je vais devoir tout refaire donc ça fait 3 fois que je refais cette recherche et que je fais des résultats dessus. Et donc voilà encore un exemple de en quoi la thèse ressemble à un vertige de comment je la vois. C'est que ok, je vais recommencer ce que j'ai fait en 2022, en 2023, puis en 2024. Je le refais là en 2025 et rebelote. Et en fait, on se reprend les mêmes thématiques, les mêmes réflexions. En tout cas, moi, je pense que ça, c'est quand même assez précisément le cas de ma thèse, hein, parce qu'il y a tellement de rebondissements, de recherches de financement que du coup, j'arrête, je reprends les projets. Mais voilà comment je le vis, en tout cas, en ce moment. C'est bon, et bah, rebelote. Déjà pour les journaux, ça fait 6 fois que j'essaie de publier le même article, donc je recommence. Et là, eh ben, j'ai tellement mis de temps à publier le troisième article qu'en fait, il va falloir que je refasse des recherches, je réanalyse, je re-rédige les résultats et je re-rédige la discussion. Donc c'est beaucoup plus rapide que de reprendre du début parce que les résultats, ils vont pas changer en rajoutant 3 articles. Par contre, toutes les stats, bah, si j'avais trouvé 4 articles sur 47 qui parlent de la confiance entre le médecin et le patient, et bah là, ce sera 4 articles sur 50 ou sur 52. Donc, ce n'est pas les mêmes pourcentages. Donc, sur tous mes schémas, sur tout le texte, je vais devoir changer toutes les statistiques. Et vu que souvent, c'est des statistiques en pourcentage, ça va pas être très long. Mais c'est plus fastidieux que long. C'est-à-dire, je l'ai déjà fait. Ok, bah on recommence, on réécrit tout et on continue. Pareil, l'introduction, je vais quasiment pas la changer parce que c'est le même cadre et c'est la même manière de faire. Et mes réflexions vis-à-vis de la discussion, étant donné que je vais pas faire x2 en nombre d'articles inclus, je pense que mes résultats vont pas être très différents parce que dans tous les cas, les tendances qu'on voit au bout de 47 articles, devraient être les mêmes qu'au bout de 53. C'est une logique mathématique qui est que si je prends 80% d'un échantillon ou 100%, logiquement, ma lecture ne devrait pas forcément changer. Donc voilà, mes idées, les choses que j'ai envie de défendre ne vont pas changer. Ça ne va pas changer du tout au tout mon article. Mais on reprend, on recommence, on refait, comme ce que je fais depuis 3 ans. Et voilà, on est un peu dans un sentiment de boucle infernale où bah, je pense qu'il faut encore une fois que je baisse la tête, qu'on avance et de faire quand même en sorte que le plus rapidement possible, je puisse cracher ces 3 articles. Là, je commence à utiliser des verbes un peu plus autoritaires, un peu plus forts. Il faut que je vomisse, il faut que je crache ces articles parce qu'on en est là au bout de 3 ans quand on n'arrête pas de les relire, de les remanier, de les resoumettre. Là, il faut juste envoyer ce que j'ai en tête et essayer de créer des nouvelles connaissances et de faire autre chose parce que c'est très compliqué de travailler sur les mêmes projets encore et encore sans finalisation. Voilà, vous pouvez vous imaginer, pour ceux qui font pas de recherche ou qui font une thèse et pour qui ça s'applique pas vraiment, bah, c'est comme devoir faire un dossier pour un examen final à la fac ou au lycée. Et puis à chaque fois, l'examen final, on vous le critique, mais on vous dit non, bah, en fait, c'est comme redoubler 3 fois, 4 fois. Non, bah, ok, l'année prochaine, vous referez pareil sur le même sujet, vous referez le même dossier, mais il faudra améliorer ça, ça, ça. Et voilà, pendant 3 ans, vous redoublez. Donc j'ai vraiment l'impression de redoubler depuis 3 ans, je pense que c'est ça. Donc ça devient lassant. Je suis pas du tout au point d'arrêter ma thèse, mais par contre, je suis conscient de ce qui se passe et il faut pas que ça dure très longtemps parce que. C'est usant et j'aimerais bien redécouvrir des choses, un nouveau champ de littérature et avancer différemment sur ma thèse que juste reprendre les mêmes idées, reprendre les mêmes articles et recommencer. Je pense que vous l'avez vu, j'ai pas peur d'être discipliné, de recommencer, de baisser la tête et de faire les choses avec de répétition. Mais ça n'empêche que ça peut gâcher un petit peu la manière dont je vis la thèse et je pense que ça y est, il faut passer à autre chose. Bref. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. C'était un petit peu déstructuré, mais en tout cas, c'était réaliste par rapport à comment je vis cette rentrée. J'ai pas spécialement, si j'ai un peu de développement personnel à vous dire, mais là, c'est très personnel. On va dire que pour valider ce que je vous ai transmis en développement personnel, le fait de reprendre petit à petit, eh bah, ça marche bien par contre. Le fait de courir tous les matins, comme je l'ai dit, c'est le seul truc qui était nouveau vraiment dans mes habitudes. Sinon, c'était aller au sport, bien manger et marcher. Et bah, j'ai bien réfléchi le truc. Courir le matin, c'est bien un moment qui me convient, je vais le laisser. J'ai réussi à ne pas augmenter. J'avoue que j'ai une tendance naturelle à toujours vouloir augmenter, mais je me tiens à ma règle de ne pas ajouter de nouvelles habitudes ou complexifier l'habitude en cours tous les mois. Donc, c'est très agréable de se dire, bon, bah, ok, je cours tous les matins, j'arrive à faire 3 séances de sport par semaine, j'arrive à bien manger, et bah, on continue. Donc, peut-être que pour le développement personnel, en tout cas sur le champ des habitudes, j'aurais pas grand-chose à dire, même si là, sur le développement personnel, en fait, le podcast a porté sur le développement personnel, parce que c'était ma manière de concevoir l'alternance, ma thèse et mon moral vis-à-vis de ça. Donc, oui, je pense que là, pour le coup. La différence entre thèse, travail et développement personnel est un petit peu mélangée. Et pour l'instant, ça me va bien. On verra si je reviens à une structure. Dans tous les cas, je ne me prends pas la tête. Ce que je veux, c'est vous transmettre de manière assez précise ce que je vis et j'ai le sentiment que ça a été fait dans cet épisode encore une fois. Donc j'espère que vous l'apprécierez. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vos résolutions se passent bien, que vous le faites, en tout cas si vous êtes comme moi, que. Vous le faites en force tranquille, c'est-à-dire sans avoir une surmotivation, mais juste en se disant, je sais que j'ai trouvé des choses que je vais tenir sur l'année. Et bah voilà, j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Je vous dis bonne semaine, bonne fin de journée, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bip Bip.